journal, Jacques-Yves Molima.
Nouveau rebondissement de l'affaire du procès des assassins du journaliste Serge Maïechi. Les assassins ont avoué dans une lettre avoir été influencés par deux magistrats du tribunal militaire garnison de Bukavu afin qu'ils chargent les amis de Serge Maïechi. Une équipe d'experts de santé canadiens et leur laboratoire seront bientôt en RDC. Ces experts et leur matériel permettent en quelques heures seulement d'identifier et d'isoler les personnes porteuses du virus d'Ebola. C'est là pour éviter l'expansion de la maladie. Signature de deux protocoles d'accord entre la RDC et la Chine hier à Kinshasa. Par ces accords axés sur les travaux d'infrastructure et l'exploitation minière, la Chine s'engage à réhabiliter les secteurs de la santé, de l'éducation et du logement. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs. Le procès de Serge Maïechi, journaliste de Radio Kapi assassiné à Bukavu, prend un autre tournant. Dans une lettre datée du 8 septembre dernier, les assassins de Serge Maïechi se rétractent et affirment que les amis du journaliste Serge Mouima et Alain Chamavou, accusés d'être les commanditaires de ce meurtre, ne le sont pas. Ces assassins avouent que deux magistrats du tribunal militaire garnison de Bukavu les avaient influencé pour qu'il charge les amis de Serge Maïechi. Plus de détails avec Paul Kabouba.
La lettre est écrite en swahili. Elle porte en bas à gauche la signature de Bisimwa Matabaro ainsi que son empreinte digitale. Son compère signe et appose ses empreintes du côté droit. Les deux affirment dans leur lettre que contrairement à ce qu'ils avaient déclaré à la cour, les amis de Serge Maïechi ne sont pas commanditaires de son meurtre. La lettre poursuit qu'ils ont été influencés par des magistrats qui leur avaient promis la liberté si c'était ses amis comme commanditaires. Ils affirment également que même l'arme dite du crime leur avait été remise par ces magistrats. Mastakia Mugisho et Bisimwa Matabaro terminent leur lettre en souhaitant que les amis de Serge Maïechi soient relâchés. Bukavu, Paul Kabouba. Radio Okapi.
Une première réaction à la lettre de rétractation des assassins de Serge Maïechi, elle provient d'un avocat de Bukavu, membre du collectif des avocats, assurant la défense de Serge Mouima et Alain Chamavou. Maître Wilson Lutoamuziré estime que si la lettre des présumés assassins est authentifiée, il faudra alors chercher les vrais commanditaires et savoir qui ont influencé les assassins pour qu'ils citent des commanditaires imaginaires. Maître Wilson Lutoamuziré l'a dit au micro de Paul Kabouba.
S'il était dit déjà en cours du procès que le nommé Serge Mouima et Alain Chamavou étaient les commanditaires de ce crime et que ceux-là qui les ont dénoncés, qui sont ici les auteurs, jusqu'à preuve du contraire, cela va sans dire tout simplement qu'il faudra chercher à savoir finalement s'il existe de commanditaires pour ce crime et s'il en existe, qui sont-ils. Et pourquoi les prénommés Mastakila et Freddy, qui sont les auteurs matériels de l'infraction, pourquoi ont, dans un premier temps, donné d'autres noms? Pourquoi ont-ils caché les réels commanditaires? Et donc, bref, qui avait intérêt à fomenter ou à suborner ces prévenus-là? Parce qu'il y a déjà un appel, et donc c'est de faire en sorte qu'au niveau de l'appel, les choses soient clarifiées et qu'une décision définitive soit prononcée. Avec toute la lumière qu'il faut apporter sur ce crime.
Rappelons que le journaliste de Radio Kapi, Serge Maïechi, a été abattu par balle en pleine rue de Bukavu le 13 juin dernier. Son procès à l'auditorat militaire de Bukavu avait inculpé le 28 août dernier ses amis qui étaient avec lui au moment du crime, comme les commanditaires de ce meurtre. Restons au sud Kivu pour signaler des affrontements qui ont opposé le week-end dernier des militaires des FRDC aux insurgés réfractaires au brassage dirigé par le major Vena Bisogo. Ces affrontements ont eu lieu dans la localité de Bijabo, territoire de Fizi. Selon une source proche de la 10e région militaire, ces attaques ont été repoussées et les insurgés dispersés. Astrid Mujinga.
L'attaque des positions FRDC s'est déroulée près de la forêt de Bijabo vers la chaîne de Momitumba. Les affrontements ont débuté le vendredi, ont duré toute une journée pour s'arrêter samedi. Selon les sources proches de la 10e région militaire, ces soldats réfractaires au brassage utilisent la tactique de la guérilla et montent des embuscades. La même source indique qu'il y a eu des morts et des blessés dans le décan, mais la 10e région militaire n'a pas encore le bilan définitif des affrontements. Pour rappel, la première attaque de ces insurgés a eu lieu le 16 juillet. est passé à Mikenge, toujours dans le territoire de Fizi. À ce moment-là, ils avaient été dispersés par les éléments de la 10e région militaire, selon les propos du général Steven Chikwej, commandant de la 10e région militaire. Notons que le major Vena Bisogo, qui conduit ce groupe réfractaire au brassage, fait partie du groupe dit des 47 éléments du colonel Mutebusi, qui avait attaqué la ville de Bukavu en 2004. Et il s'est joint aujourd'hui au colonel Michel Rukunda Makanika, lui-même dissident de la 109e brigade. Depuis Bukavu, Astrid Mujinga, Radio Okapi.
En Ituri aussi, les FARDC ont lancé hier lundi une opération de réplique contre les attaques des éléments dissidents du FNI, Front des Nationalistes et Intégrationnistes à Lalo, localité située à 120 km au nord-est de Bounia. Selon le commandant second de la zone opérationnelle de l'Ituri, ces attaques ont fait 4 morts du côté des miliciens et 1 mort dans les rangs des FARDC. De la Chabani.
Ces attaques ont été lancées ce lundi matin à partir de Lalo et se poursuivent dans la forêt de Katanga au sud du territoire de Mahagi où se sont retranchés ces éléments dissidents du FNI. Conduits par Henri Pilipili, ces miliciens avaient attaqué samedi dernier la position de FRDC dans la région de Lalo. Aussi, ils avaient occupé des forces. Cette localité dans le secteur précise le commandant basé dans la région de Fataki. Cette occupation a duré 5 heures avant que ces villages ne soient repris par les éléments de FRDC. Selon le colonel Niembo Abdallah, commandant second de la zone opérationnelle de l'Ituri, ces affrontements ont causé 4 morts dans les rangs des miliciens dissidents et a précisé aussi que le chef des bandes de cette dissidence, Henri Pilipili, avait été touché. La même source annonce un mort et un blessé du côté des FRDC. Le colonel Peter Karim souhaite qu'il soit associé à cette opération, car selon lui, ces éléments dissidents n'ont qu'un objectif, saboter le processus de la troisième phase du DDR. De Bounia, Sadala Chabani, Radio Okapi.
Et puis, vous le savez, la tripartite plus 1 a pris fin hier lundi à Kampala, en Ouganda. Les ministres des Affaires étrangères des pays des Grands Lacs souhaitent l'accélération du brassage des FRDC pour le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi et la République démocratique du Congo. Cela permettrait à la RDC de lutter contre les forces négatives sur son sol. Charles Murigande, ministre rwandais des Affaires étrangères, joint à Kampala après la rencontre, rassure que son pays fera l'avocat de la RDC à l'extérieur. Il est joué donc par Georges Kamoudjouva.
Vous savez, on peut peut-être commencer par un soutien moral parce que nous ne sommes pas peut-être des pays extrêmement nantis pour qu'on puisse contribuer au coût de la création d'une nouvelle armée. Et peut-être aussi nous pouvons aussi donner une contribution en plaidant pour la cause de la RDC. Chaque fois que l'on parle à ces pays plus développés, ayant des moyens à leur disposition, et qu'on leur dise que peut-être une priorité des priorités pour amener la paix et la sécurité dans l'est de la RDC, c'est d'aider le gouvernement de la RDC en lui fournissant des moyens financiers et matériels pour qu'il puisse créer une armée intégrée et républicaine. Je crois que c'est déjà un appui que l'on donne. C'est une tâche à laquelle nous nous sommes assignés en tant que ministre des Affaires étrangères du Rwanda. Je ne cesse de plaider cette cause-là.
Charles Murigande, ministre rwandais des Affaires étrangères, sera donc l'invité de Radio Okapi tout à l'heure à 8h30, heure de Kinshasa. Une équipe d'experts canadiens et leur laboratoire dans les prochaines heures en République démocratique du Congo. Il s'agit d'experts de l'Agence de santé publique du Canada pour aider au contrôle du virus d'Ebola. Selon le docteur Gary Converger du laboratoire de microbiologie nationale du Canada, dans une téléconférence de presse hier lundi à Ottawa, ces experts et leur matériel permettent en quelques heures seulement d'identifier et d'isoler les personnes porteuses du virus d'Ebola et éviter l'expansion de la maladie. Le docteur Gary Converger dans ses propos recueillis par Emmanuel Imbanda lors de la téléconférence d'hier, quelques heures avant le départ des experts d'Ottawa.
L'équipe du laboratoire mobile aidera les autorités du Congo à lutter contre l'éclosion du virus Ebola sur leur territoire. Notre équipe fournira des épreuves de diagnostic rapide sur le site de l'éclosion dans la province du Kasaï occidental. Puisque les épreuves de diagnostic sur le terrain permettent d'obtenir des résultats en seulement quelques heures, il s'agit d'un service essentiel qui permet d'isoler des cas d'Ebola et de fournir un traitement adéquat à tous les patients. On s'assure ainsi que les personnes souffrant d'autres maladies n'entrent pas en contact avec celles qui ont contracté le virus Ebola. De cette façon, on est alors en mesure de mettre un frein à l'éclosion beaucoup plus rapidement. Nos spécialistes ont établi un système de laboratoire mobile extrêmement efficace et adaptables qui leur permettent de travailler dans des circonstances difficiles et dans des régions très éloignées et moins développées.
Justement, au sujet de cette fièvre Ebola, les habitants du Kasaï occidental réagissent de différentes manières depuis l'annonce de cette épidémie dans la province. Certains paniquent, d'autres disent ne pas avoir assez d'informations, d'autres encore déclarent avoir pris conscience du rôle que la population doit jouer dans la lutte contre l'épidémie. Reportage Marie-Chantal Lumba.
C'est par un coup de coude que certains habitants se saluent, tandis que d'autres s'en tiennent qu'à des signes plus distants de la main. Il y a également ceux qui, sciemment ou non, continuent de se saluer par des embrassades. Le ministre provincial de la Santé reconnaît qu'il est difficile de changer les us et coutumes d'un peuple. Il recommande à la population de ne pas paniquer, mais d'observer certaines règles d'hygiène permettant de lutter efficacement contre le virus d'Ebola et en même temps de réduire la fréquence d'autres infections liées à un environnement malsain ou au manque d'hygiène personnelle. Il demande de ne pas manger la viande d'animaux morts subitement et surtout la viande de brousse boucanée et enfin de ne pas toucher le cadavre d'un cas suspect. Les autorités sanitaires ont redéfini les cas atteints d'Ebola. Pour les cas alertes, toute personne avec un début soudain de fièvre élevée, saignement ou diarrhée rouge ou la mort soudaine d'une personne. Et pour les cas suspects, toute personne qui a été en contact avec un cas de fièvre hémorragique ou présente des fortes fièvres, vomissements et diarrhées. Le virus d'Ebola se transmet par contact direct, il n'existe pas de vaccin et il n'y a que des traitements symptomatiques. De Kananga, Marie-Chantal Lumba, Radio Okapi.
Dans la province de l'Équateur, le ministre provincial de l'Intérieur a été évacué hier en début d'après-midi sur Kinshasa. Henri Emenia Ilakankoyi ne s'est pas encore remis des coups reçus vendredi dernier, malgré son hospitalisation à la clinique médicale de Mbandaka. Vous le savez, le ministre provincial de l'Intérieur tentait de convaincre les parents d'un quartier de Mbandaka de faire vacciner leurs enfants contre la polio. Selon son médecin traitant, Henri Emenia est transféré à Kinshasa pour subir des examens cliniques et y recevoir des soins appropriés. Lui-même, le ministre provincial de l'Intérieur, revient sur les circonstances de son agression. Il est au micro de Béatrice Nabindi.
Nous sommes arrivés dans la rue en entendant un cri maintenant dans la maison qu'on venait de quitter. Quelqu'un qui est venu de derrière, il a commencé à crier, je vais me suicider. Il a quitté la maison en courant vers chez nous dans la rue avec une bouteille et il a pris la bouteille. Et les gens ont crié, il a pris la cible. Et du coup, il est tombé. Et quand il est tombé, la population a vu que non, c'est quelqu'un qui est décédé à cause de notre passage là-bas. On a commencé à lapider. J'ai demandé à mon collègue de la santé d'amener le monsieur directement à l'hôpital et nous avons suivi. Alors comme on commençait à beaucoup lapider maintenant, tout le monde avec des cailloux, des bâtons et tout, les dédits ont démarré. Alors moi, je serai abandonné là-bas. Toute la foule va tomber sur moi et c'était vraiment une bagarre généralisée. On m'a déchiré le veste, on a même tenté de me faire beaucoup de mal, je ne sais pas où décrire ici à la presse. Mais c'est grâce à Dieu que je verrai un officier de la police et cet officier assure ma protection.
La Chine prête à aider la République démocratique du Congo à réaliser des grands travaux d'infrastructures et d'exploitation minière. Le coût total de ces travaux est de 6 milliards de dollars pour les infrastructures de santé, d'éducation et de logement et de 2 milliards pour l'exploitation minière. Deux protocoles d'accord à cet effet ont été signés hier au ministère des Affaires étrangères à Kinshasa. Selon le ministre d'État chargé des travaux publics et infrastructures, Pierre Lumbi, toutes les conditions d'exécution des travaux sont désormais réunies. L'essentiel de ces protocoles d'accord avec Jeff Ngoy.
La signature de ces protocoles d'accord ouvre la voie à l'exécution de plusieurs projets selon le ministre congolais des Travaux publics et infrastructures Pierre Lumbi. Une route transnationale sera construite à partir de Boma pour relier Matadi, Kinshasa, Kikwitse, Kananga, Mbujimayi, Lubao, Kasongo, Bukavu, Goma jusqu'à Kisangani. Un deuxième projet porte sur la construction de 3200 km des routes bitumées. Un autre concerne la réhabilitation de 450 km de la voirie urbaine à Kinshasa. La construction de 31 hôpitaux de 150 lits sur toutes les étendue nationale, deux universités modernes, 5000 logements sociaux, la finition de la construction de l'hôpital central du camp Kokolo en face de la base logistique bâtiment communément appelé Kowet City à Kinshasa. Au Katanga, une autoroute reliant Kasumbalesa, Lubumbashi, Kipushi et Likasi sera construite. Le premier lot de cette chaussée a une durée estimée à 36 mois. Dans le cadre ferroviaire, 3500 km de chemin de fer seront réhabilités. En contrepartie, les Chinois vont exploiter les ressources minières et se faire rembourser à travers le système de péage routier.
Une usine de production de barres d'acier vient de naître à Kinshasa. La fonderie Lady Metal a été inaugurée ce lundi par le président de la République. Pour la concrétisation de ce projet, le Fonds pour la promotion de l'industrie a alloué plus de 700 000 dollars américains, évalué à 15% des parts sociales. La fonderie Lady Metal emploie plus de 250 travailleurs permanents. Mireille Kabbalah.
La première usine de la Troisième République va produire 30 tonnes de métal par jour. Il s'agit des barres de fer de différentes dimensions qui servent pour les bétons armés, des maisons, des routes, des ponts. Mais il s'agit aussi des métaux plats que l'on utilise pour la fabrication des clôtures, des portails, des cornières, de fenêtres et des maisons, j'en passe. La ferraille produite servira aussi à la fabrication de la tuyauterie, des robinets, des câbles électriques, des turbines, des interrupteurs et des disjoncteurs. La fonderie Lesia Metal comprend un parc à mitraille de plus de 2500 tonnes, une section fusion avec 4 fours et une section forge pour laminage à chaud, redressement des cornières. Ces services annexes sont composés de 4 transformateurs, des installations de refroidissement et un hangar de stockage et de commercialisation. Pour encourager cet investissement, le ministre de l'économie a annoncé au nom du gouvernement que la fonderie Lesia est exemptée de certaines taxes et redevances pendant 3 ans. C'est qui, affirme-t-il, un appel aux autres investisseurs.